Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. En 2022, plus de 850 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire à travers le monde, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Sécheresses, inondations, changements climatiques sont généralement pointés du doigt, mais l'action des hommes entre violence et guerre est également responsable. La guerre d'Ukraine a de fortes conséquences pour l'économie du pays, mais pas seulement. C'est toute la stabilité des marchés internationaux de matières premières qui est impactée. Et au-delà, semble se profiler une mutation, pour ne pas dire bouleversement, dans la hiérarchie des nations productrices et exportatrices de biens agricoles et alimentaires, au point que l'on évoque un risque de désoccidentalisation des marchés agricoles. L'agriculture comme levier de puissance, la Russie en position de domination, c'est la question pour nos invités. Thierry Blandinière, directeur général du groupe Invivo, premier opérateur sur la collecte et le commerce de grains en Europe. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Par téléphone, Sébastien Abyss, directeur du club Déméter et chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, directeur du rapport Déméter dont l'édition 2023 a pour titre Agriculture et Alimentation, la durabilité à l'épreuve des faits, et auteur d'une géopolitique du blé aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Thierry Pouche, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et membre de l'Académie d'Agriculture de France. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
2022 fut l'année des céréales. Tension très forte sur ce marché avec des flambées spéculatives. Le 18 mars dernier, c'est il y a donc quelques jours, l'accord garantissant les exportations céréalières de l'Ukraine via les ports de la mer Noire a été prolongé pour au moins 60 jours, la Russie conditionnant la prolongation au-delà de la mi-mai à la levée de certaines sanctions occidentales. Thierry Blandinière, la durée de prolongation de cet accord fait débat, 60 jours pour les Russes, 120 pour les Ukrainiens. Où est-ce qu'on en est exactement ?
Bien, on voit bien actuellement tout l'enjeu de la géopolitique du blé, puisqu'on voit notamment donc la Russie utiliser son stock de blé qui est conséquent aujourd'hui comme une arme politique pour faire valoir quelque part sa position dominante, notamment dans les pays émergents. L'Afrique, bien évidemment, est au centre du jeu. Et on voit aussi que quelque part, aujourd'hui, le corridor d'Odessa, certes, a servi vraiment à sortir la production ukrainienne dans des conditions dégradées. Mais certes, ça a été réalisé. Ça a permis de contenir l'inflation, qui aurait été beaucoup plus importante si, effectivement, il y a un an, il y avait eu un blocage, voire catastrophique, au niveau mondial. Pour autant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une négociation en cours. Et on a souvent parlé d'ouvrir le couloir, le corridor ukrainien. Par contre, on a oublié de parler de la contrepartie qui avait été plus ou moins négociée avec la Russie, de laisser la Russie vendre son engrais et ses céréales dans le monde entier, et surtout de lui laisser la possibilité d'avoir des moyens financiers, d'avoir de la liquidité financière pour pouvoir activer ses ventes. Et aujourd'hui, le blocus fait que sur les avoirs financiers, c'est difficile d'acheter du blé russe pour beaucoup de pays. Et donc, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une négociation, un bras de fer entre le 60 jours et le 120 jours pour que quelque part, l'Occident facilite la liquidité pour avoir accès au stock de blé russe. Et que quelque part, aujourd'hui, le président Poutine essaye de négocier plus de liquidités pour sortir son stock et peser plus sur les relations internationales.
En tout cas, le blé russe, arme stratégique pour la Russie, Sébastien Abyss. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la production de l'Ukraine en termes de blé? Est-ce que l'Ukraine parvient encore à produire du blé?
Oui, l'Ukraine a réussi, malgré l'intensification de la guerre depuis le 24 février 2022, puisqu'il faut quand même rappeler que ce conflit a démarré fortement en 2014, l'Ukraine a réussi ces derniers mois à maintenir une activité agricole et des récoltes qui, en 2022, à l'été 2022, n'ont pas été insignifiantes, loin de là. Grosso modo, l'Ukraine a fait 50% de la moyenne de sa récolte céréalière des dernières années. Donc ce n'est pas rien, mais évidemment c'est un déficit conséquent, sachant que l'Ukraine à l'image de la Russie, faisait partie de ces nations qui, depuis le début du siècle, avaient mis le turbo sur les productions agricoles. Il faut avoir en tête quand même que l'Ukraine avait multiplié par 8 ses exportations de blé entre 2000 et 2020. L'Ukraine était devenue 4e, 5e exportateur mondial de blé. 3/4 de la récolte était internationalisée. Donc c'était vraiment une nation déterminante, comme ça vient d'être dit, pour un certain nombre de marchés mondiaux. En 2022, il y a eu, entre fin février et début août, une Ukraine empêchée d'exporter par la mer Noire. Donc il y a eu un déficit de blé ukrainien sur la scène internationale. Et en plus, il y a eu une récolte amputée de moitié. Ce qui fait que aujourd'hui, l'Ukraine apporte évidemment moins de volume sur la scène internationale et entraîne mécaniquement plus de volatilité, plus d'incertitude sur ces rapprochements offre et demande. Je rappelle quand même que le manque d'Ukraine depuis un an n'est compensé par personne. Il n'y a pas de nouveaux joueurs sur la planète blé. Et qu'en fait, le seul pays qui a pu mettre plus de volume sur la scène internationale ces derniers mois, c'est la Russie, parce que sa récolte a été favorable et parce que la Russie est devenue, depuis 2016, le premier pays exportateur de blé. Mmh. Malgré ce que Thierry Blandinière a indiqué, la Russie exporte du blé. Et c'est là où c'est très compliqué, puisque nous ne pouvons pas, pour les équilibres céréaliers mondiaux, nous passer de l'origine ukrainienne et russe, et que si on ajoutait le manque de blé russe au déficit de blé ukrainien, il y aurait un gros trou dans la raquette. Mais évidemment, en maintenant les produits agricoles et le blé hors sanctions, la Russie, évidemment, génère des revenus et accentue sa diplomatie du chantage vis-à-vis de pays importateurs de blé, en leur disant qu'évidemment, ce robinet céréalier et alimentaire peut être coupé si ces pays sont trop critiques vis-à-vis de l'action que Moscou mène en Ukraine.
Alors c'est tout à fait intéressant et ça souligne finalement l'attitude d'un certain nombre de pays, notamment à l'ONU quand il s'est agi l'an dernier, Thierry Pouche, de condamner la Russie pour son intervention en Ukraine. Le blé, donc on l'a compris, est hors sanction pour l'instant, en tout cas, avec l'augmentation des prix des céréales, évidemment, pour la Russie, c'est immensément d'argent en plus. Quelles sont les perspectives pour 2023, en particulier pour l'Ukraine, Thierry Pouche?
Alors, les prévisions qui ont été établies, en particulier par le ministère de l'Agriculture américain, montrent que la production de blé devrait reculer à peu près de 23-24%. Et que la production de maïs devrait reculer de 50%.
Par rapport à 2022.
Par rapport à 2022.
Ce qui fait un très fort affaiblissement.
C'est un volume assez important en moins. Et comme le soulignait Sébastien, s'il n'y a pas de pays qui compense cette perte de production et d'exportation, parce que l'année dernière, l'Ukraine a quand même reculé sur ses exportations de blé de 26%. Donc, il y a la confirmation qu'ils ont continué à produire et à exporter. Et d'ailleurs, l'accord sur le corridor maritime faisait partie de cette perspective de faciliter l'écoulement de la production céréalière, blé, maïs notamment de l'Ukraine. Mais pour cette année, on est quand même dans une certaine incertitude. Si les prévisions établies, comme je le disais, par l'USDA se confirment. Donc il y a un certain nombre de pays qui non seulement sont exposés au chantage de la Russie, mais qui vont nécessairement se tourner vers des pays exportateurs comme la Russie, mais ça peut être aussi certains pays européens comme la France. L'année dernière, la France a quand même pulvérisé un record en matière d'exportation de blé. Donc là, on est sur un enjeu d'approvisionnement tout à fait conséquent. J'aurais juste quand même indiqué que sur l'accord qui a été mis en place en juillet et reconduit en octobre, il est quand même assez surprenant de voir que malgré les objectifs, on n'a que 27% des exportations ukrainiennes qui, avec cet accord, se sont dirigées vers les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Sur le maïs, par exemple, il a été tout à fait frappant de constater que des pays européens ont même acheté du maïs ukrainien, l'Italie et l'Espagne en particulier, parce que ce sont deux pays qui ont été fortement touchés par la sécheresse de 2022. Donc ils ont essayé de compenser leur perte de récolte de maïs en achetant achetant du maïs ukrainien au détriment des pays en développement et de pays africains en particulier.
Et ceci nous est particulièrement reproché.
Et ceci nous est particulièrement reproché, bien évidemment.
Par la Russie.
Par la Russie. Voilà. Donc sur les sanctions, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi à rappeler, c'est que les engrais échappaient aux sanctions. Mais on constate quand même que la Russie exporte pas autant qu'il l'aurait souhaité d'engrais, tout simplement parce qu'il y a un effet collatéral des sanctions, notamment des sanctions financières, l'exclusion du système SWIFT, et puis des compagnies d'assurance qui ne veulent plus assurer un certain nombre de navires contenant de l'engrais. Donc on est là sur un recul des exportations d'engrais de la Russie, qui est quand même un acteur prépondérant sur ce marché-là.
Vous écoutez Marie-France Chatin, Géopolitique.
On reviendra sur la question des engrais, bien sûr. Thierry Blandinière, effectivement, c'est compliqué avec le conflit en Ukraine d'avoir une compensation de l'affaiblissement des exportations ukrainiennes dans l'année qui suit. 2023 devrait tout de même laisser des perspectives. Est-ce que la France a développé une stratégie agricole ou une réorientation avec ce conflit en Ukraine ?
D'abord, ça a été dit par Thierry sur le volume d'exportation que nous avons atteint au dernier trimestre est historique. Donc ça veut dire qu'on s'est mobilisé pour notamment vendre à nos clients privilégiés d'Afrique du Nord un maximum de blé de qualité à un prix certes compétitif. Donc tout ça, c'est très positif aussi pour le revenu de l'agriculteur français, des céréaliers, qui a pu avoir de la trésorerie aussi pour financer ses engrais plus chers. Donc ça permet de maintenir le potentiel de production en France et l'envie des agriculteurs de produire plus, mieux et durable. Mais il ne s'agit pas de produire n'importe comment, on pourra y revenir. Et donc le plein potentiel de la ferme France est essentiel. Donc il faut qu'on se mobilise pour augmenter notre production en France et en Europe pour pouvoir prendre toute notre part dans cette demande mondiale et de montrer que l'Europe est présente et donc apporte des services de qualité, des produits de qualité et permet aussi de créer des liens politiques intelligents avec nos pays, clients et partenaires. Et donc, il faut savoir que les autres régions du monde ne nous ont pas attendu. Le Brésil, notamment sur le maïs, et les États-Unis ont augmenté leur plein potentiel aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cours sont quand même plutôt baissiers. Rajouter à ça qu'effectivement, sur le blé, la Russie commence à pouvoir exporter son stock de blé. Donc tout ça, ce sont des tendances baissières. Mais il faut rester très prudent parce que l'équilibre est très fragile. Mmh. Il suffit qu'il y ait un incident climatique dans telle ou telle région du monde pour que les cours repartent à la hausse d'une manière spectaculaire. Donc on est un peu dans une tendance, on va dire, de stabilité, idéalement, qui serait le bon équilibre pour tout le monde, c'est-à-dire pour le revenu des agriculteurs, pour pouvoir continuer à acheter des engrais à un prix, on va dire, qui sera plus cher qu'avant, et pour continuer à produire en bonnes conditions et donc de maintenir quelque part le niveau de prix. Je vais donner un prix autour de 300-330 euros la tonne, ce qui serait le bon équilibre, tout, on va dire, en moyenne sur le blé mondial. Hein. Donc après, dès qu'on donne un prix, forcément, il y en a qui considèrent que ce n'est pas assez, mais je considère qu'on n'est pas loin d'un équilibre économique intelligent pour tout le monde si on se stabilise sur des prix autour de 300-330 euros. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop bas, puisque nous sommes à 260 ou 270.
Même un peu en dessous,
voire
d'ailleurs.
Tendance baissière. Mais je pense qu'on va avoir des équilibres, parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis, notamment, ils annoncent quand même, ils sont moins optimistes sur leur volume de production, l'Argentine aussi. Donc, je pense que tout ça, in fine, devrait s'équilibrer et stabiliser. En tout cas, je reste optimiste, les affaires dans le monde, en fait.
En tout cas, 2022, Thierry Blandinière, a été une bonne année pour les producteurs de céréales français.
Le monde. Je ne vais pas dire le contraire, bien évidemment. Oui, il y a deux années très intéressantes où ils ont pu restaurer leur trésorerie, avoir beaucoup de trésorerie qui leur donne maintenant des moyens pour acheter de l'engrais le moins cher possible, bien évidemment, mais enfin, qui sera quand même plus cher qu'avant et continuer à produire en de bonnes conditions.
Et puis le solde extérieur sur les exports, enfin le solde sur les céréales a été conséquent. Hein. En blé, notamment, on a quand même pulvérisé un record d'excédent. Le port de Rouen a tourné à plein régime pendant pratiquement toute l'année. Il y a eu des commandes qui ont été formulées, en particulier par l'Égypte, à l'automne. Donc le profil du marché était plutôt en faveur des producteurs français qui ont non seulement énormément exporté, mais à des prix qui étaient quand même très élevés.
Alors, Sébastien Abyss, la situation en Ukraine, pour bien la comprendre, vous avez évoqué la baisse de 50% de la récolte de blé en 2022. Les perspectives pour 2023, pourquoi moins de récolte? Est-ce que c'est parce que précisément il y a moins de cultivateurs dans les terres qui ont été mobilisés pour la guerre d'Ukraine? Est-ce que c'est aussi des terres détruites par les bombardements russes? Voilà, quelle est la situation? Et peut-être aussi parler des infrastructures ukrainiennes. Est-ce qu'elles ont résisté, Sébastien?
Oui, je crois que c'est important qu'on comprenne bien que l'Ukraine, en fait, illustre cette réalité tragique de l'histoire longue. C'est que quand un pays est en guerre, la situation agricole et alimentaire de ce pays est mécaniquement affaiblie et durablement affaiblie. Cette guerre en Ukraine, hein, donc sans surprise, a un impact conséquent sur l'agriculture du pays. Je rappelle quand même que la Russie occupe en mars 2023 près de 20% du pays, hein, à l'est et sur plusieurs bordures de la mer Noire, où se trouvent les très bonnes terres agricoles, mais aussi un certain nombre d'outils logistiques de l'Ukraine. Les sols ukrainiens sont ravagés depuis plusieurs mois par le passage de chars, par des troupes, des obus qui tombent par centaines chaque jour et qui posent d'ores et déjà, mais dans la durée, un véritable défi environnemental, puisqu'on a des terres qui sont minées, des terres polluées, et donc des risques sanitaires qui seront forcément croissants pour les cultures et qui posent une vraie question sur la vitalité des sols. Cette Ukraine agricole entravée, ce sont aussi des producteurs, vous l'avez dit, qui ont dû fuir parfois leur exploitation ou leur activité, faute de sécurité ou de capacité à mener leur métier avec le minimum de prévisibilité que cela requiert. Et puis on a eu des tensions d'accès sur les semences, sur les engrais, sur l'essence aussi pour faire tourner les tracteurs, les exploitations, un manque d'électricité dans un certain nombre de zones. Donc une Ukraine dont les infrastructures sont endommagées, détruites. Et vous prenez par exemple un port comme Mykolaïv, qui est le premier port céréalier ukrainien avant 2022, un peu plus au nord d'Odessa. Aujourd'hui, vous avez 4 des 5 terminaux céréaliers à Mykolaïv qui sont détruits parce que bombardés. Donc on a cette situation. On a aussi un mot, je pense, d'attention à avoir pour la population ukrainienne. Il y a évidemment toujours à rappeler que les premières victimes de cette insécurité agricole et alimentaire que l'Ukraine génère depuis un an, ce sont aussi les populations civiles. Beaucoup d'insécurité alimentaire en forte croissance, de la paupérisation, des difficultés d'accès à certains produits. Évidemment, quand vous ne pouvez pas aller faire vos courses et vivre normalement dans des villes assiégées ou bombardées. Malgré tout, malgré tout cela, on a une agriculture qui tente de résister, on a des agriculteurs qui essayent de produire autant qu'ils le peuvent, et on a une solidarité internationale qui s'est déployée pour faire en sorte de sortir une partie des récoltes ukrainiennes, parce que non seulement c'est important pour l'économie du pays, et d'ailleurs Zelensky n'a eu de cesse ces derniers mois de rappeler que l'agriculture ukrainienne était décisive pour l'économie de son pays et décisive pour la sécurité alimentaire mondiale. Et on a peut-être un mot à donner sur ce que l'Europe a fait, puisqu'on parle beaucoup de ce corridor maritime onusien et sous tutelle de la diplomatie turque. Mais je rappelle que le corridor terrestre de solidarité que l'Europe a mis en place par les voies ferroviaires, par les voies fluviales, par les voies routières, a sorti depuis un an le même volume de grains d'Ukraine que le corridor maritime. Ce serait bien parfois qu'on dise que l'Europe fait des choses et travaille aussi à aider l'Ukraine et cette sécurité alimentaire mondiale.
Oui, vous avez tout à fait raison, Sébastien Abyss. En tout cas, Thierry Pouche, avec ce que Sébastien vient de dire, on a compris que la Russie, eh bien, occupait 20% du territoire ukrainien aujourd'hui. Et la question intéressante peut-être à se poser, on le fera pour redémarrer la deuxième partie de l'émission, est de savoir si finalement les questions agricoles sont un élément plus ou moins central dans la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine. On vous retrouve, Thierry Pouche, avec Thierry Blandinière et Sébastien Abyss après le journal.
Priorité. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Guerre d'Ukraine vers une nouvelle géopolitique agricole et alimentaire mondiale. Nous retrouvons nos invités. Thierry Blandinière, directeur général du groupe Invivo, premier opérateur sur la collecte et le commerce des grains en Europe. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter et chercheur associé à l'IRIS, directeur du rapport Déméter dont l'édition 2023 a pour titre « Agriculture et alimentation, la durabilité à l'épreuve des faits » et auteur d'une géopolitique du blé aux éditions Armand Collin. Et Thierry Pouche, chef économiste aux chambres d'agriculture France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims Champagne-Ardennes et membre de l'Académie d'agriculture de France. Thierry Pouche, on a terminé la première partie de l'émission avec cette question pour laquelle je n'ai pas eu votre réponse, faute de temps, pour laisser la place au journal. Est-ce que la question du blé est un élément plus ou moins central dans la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine ?
Au-delà de l'intention d'envahir l'Ukraine militairement pour résoudre et empêcher et contenir l'avancée de l'OTAN et de l'Occident, il est probablement qu'une des intentions inavouées, dissimulées en tout cas, c'est évidemment de prendre le contrôle d'une partie des superficies agricoles de l'Ukraine, d'autant plus que, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Sébastien Abyss, ce sont quand même des régions très fertiles. Donc le contrôle que pourrait exercer la Russie en cas de partition de l'Ukraine, puisqu'il faut quand même bien appeler les choses par leur nom, propulserait la Russie au rang de très très grande puissance agricole dans les années à venir. On parle dans les hypothèses et les calculs qui sont faits, puisque le blé, ça représente à peu près 18 à 20% pour la Russie sur les marchés mondiaux, on pourrait parler du tiers, là, hein, c'est-à-dire 30 à 33%, ce qui serait absolument colossal. Et si on ajoute dans les projections qui ont été faites sur le bénéfice que pourrait retirer la Russie du réchauffement climatique avec la frange sud de la Sibérie, on aurait là une puissance absolument incontestable pour plusieurs années, oui.
En tout cas, Thierry Blandinière, ce qu'on voit, hein, c'est que à la guerre d'Ukraine s'ajoute, vous l'évoquiez précédemment, les incertitudes dues au changement climatique. Ça fait beaucoup de paramètres qui se mêlent les uns aux autres. Qu'est-ce qui se joue avec le conflit ukrainien ? On évoque un redécoupage des espaces sur lesquels agissent et s'implantent les principales puissances agricoles.
Alors, redécoupage... Peut-être pas, je dirais consolidation des zones existantes dans le monde. Donc, réflexion de comment demain produire plus et mieux dans des conditions durables. C'est tout l'enjeu de l'agriculture mondiale, la qualité des sols, la biodiversité, comment augmenter le rendement à l'hectare. Donc tout ça, c'est beaucoup de travaux sur l'innovation, avec des partenaires, des semenciers par exemple, qui doivent réfléchir à comment trouver la meilleure semence qui s'adapte à tel ou tel réchauffement climatique dans telle ou telle région, pour continuer à produire en quantité et en qualité, avec un maximum de rendement. Tout ça, ce sont les défis de l'innovation qui sont devant nous. Beaucoup d'entreprises travaillent sur le sujet. On est sur un temps long aussi, hein. Je pense que le réchauffement climatique, c'est urgent, j'entends. Mais c'est un temps long aussi pour s'adapter. On est dans ces transitions agricoles au niveau mondial. Et là, l'Europe, en tout cas, et la France doivent y prendre toute leur part. Parce que c'est très important aujourd'hui de participer à cette recomposition et de montrer que l'Europe, qui est un grand pays agricole, et la France, sûrement le meilleur européen, doit reprendre toute sa place dans cette nouvelle donne mondiale avec une nouvelle agriculture qui montre que finalement l'agriculture peut être aussi une solution au réchauffement climatique et en capacité de produire plus pour nourrir des milliards d'habitants sur la planète demain. Il faut absolument trouver une réponse à cette équation.
Sébastien Abyss, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit, et peut-être aussi à ce stade de l'émission, c'est la question des engrais. Alors, engrais et agriculture durable, voilà, il y a un certain paradoxe, hein, je vous vois acquiescer Thierry Blandinière. Mais tout de même, en tout cas, cette guerre d'Ukraine, elle a mis l'accent sur une question que je pense beaucoup d'entre nous ignoraient, c'est la forte dépendance du monde, et peut-être particulièrement de l'Europe, dépendance vis-à-vis de la Russie en termes d'engrais, Sébastien.
Oui, alors certains ont redécouvert à quel point il y avait une intimité de relation entre les questions énergétiques et les questions agricoles à travers le cas des engrais. Il faut du gaz pour faire des engrais azotés et donc vous avez une géographie évidemment des producteurs d'engrais qui est très liée à la géographie des ressources énergétiques. Et il est certain aujourd'hui que si on prend les fragilités de la puissance agricole et alimentaire de l'Union européenne, l'une de ses plus grandes fragilités, c'est cette dépendance de toute façon énergétique et en engrais vis-à-vis de puissances extérieures. Donc un certain nombre d'engrais venaient de Russie, de Biélorussie ou d'Ukraine, mais nous avons aujourd'hui des engrais de Norvège, des engrais du Canada, des engrais du Maroc, des engrais d'Égypte, qui font que l'Europe a besoin d'être multidirectionnelle dans ses approvisionnements et finalement ses relations économiques en termes d'engrais. Les engrais ont néanmoins, je crois, et il faut mentionner deux choses, c'est qu'aujourd'hui, les engrais qui sont un peu les vitamines hein, pour les plantes, il y a évidemment des transitions à mener pour favoriser des engrais verts, plus locaux, moins impactants sur les aspects environnementaux et climatiques. Mais on sait que sans les engrais de synthèse, les rendements agricoles chutent considérablement. Donc c'est toute la combinaison, comme Thierry Blandinière l'indiquait, de comment on va chercher plus de performance demain environnementale sans détricoter les aspects sécuritaires, parce qu'il faut nourrir une planète plus peuplée et certains pays ont des vraies problématiques de renforcer la quantité de nourriture et d'augmenter leur rendement. Et donc la deuxième chose dans ce registre, c'est bien comprendre que pour des pays, notamment africains, depuis un an, le sujet des engrais était absolument central, au même titre que le sujet des céréales. Et d'ailleurs, Macky Sall, président de l'Union africaine, n'a eu de cesse dans ses déplacements internationaux, y compris en Russie, de dire « j'ai besoin de céréales et j'ai besoin d'engrais » parce que les pays africains, leur objectif, c'est de produire davantage, d'augmenter les rendements. Et il y a eu le grand sommet de Dakar fin janvier de l'Union africaine sur les questions de sécurité alimentaire. Pas un chef d'État n'a parlé d'agroécologie. Tous ont souhaité pouvoir augmenter leur production agricole.
Thierry Pouche, un commentaire peut-être sur cet aspect des choses. Et après ça, j'aimerais qu'on essaye de comprendre un petit peu quelles sont les répercussions des tensions sur les marchés agricoles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Ce qui est évoqué ici à la fois par Thierry Blandinière et le propos de Sébastien Abyss ne peut pas être dissocié de la stratégie de l'Union européenne. On voit bien que dans le redécoupage international sur l'agriculture, il y a deux éléments à avoir à l'esprit. La stratégie de l'Union européenne, ce qu'on appelle le fameux pacte vert ou Green Deal, alors ça relève des hypothèses et des scénarios possibles, mais un certain nombre d'études ont montré que l'application de cette stratégie pourrait provoquer un décrochage de la production et un recul de nos exportations. Donc les États-Unis ont même été beaucoup plus loin dans leurs analyses, puisqu'ils ont même, en essayant de culpabiliser l'Europe au passage, indiqué qu'en cas de repli de la production agricole européenne, bien l'Union européenne pourrait contribuer à l'insécurité alimentaire mondiale. Donc ça, c'est un premier point. Et d'autre part, il ne faut pas oublier non plus, parce que j'ai un propos un peu sévère sur les États-Unis, mais eux-mêmes vont être confrontés à un certain nombre de problèmes. Les projections du ministère de l'Agriculture américain sur 2031 indique qu'ils vont basculer d'une situation commerciale excédentaire, et le secteur agroalimentaire était un des rares à détenir un excédent comparativement à l'industrie notamment, mais à l'horizon 2031, il pourrait basculer durablement dans le déficit commercial. Donc si ces deux grandes puissances que sont l'Union européenne et les États-Unis font partiellement défaut en termes d'approvisionnement alimentaire, non seulement c'est un boulevard pour la Russie notamment, et certains autres producteurs, mais en plus, ça va poser la question de savoir comment on va résoudre l'approvisionnement du monde. Donc là, on est sur des perspectives de redécoupage, de choc, de repositionnement des pays dans la hiérarchie mondiale des nations qui produisent et exportent des produits agricoles et alimentaires.
Alors avant de revenir peut-être sur la question des répercussions sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Thierry Blandinière, un commentaire sur ce que vient de dire Thierry Pouche et sur la politique agricole commune. Effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose à dénouer qui est assez compliqué. Et cette politique agricole commune, elle est en refonte avec des éléments qui seront annoncés à la fin de cette année 2023.
En fait, il faut repenser la politique agricole commune et le programme Farm to Fork qui a été...
De la
ferme à la fourchette. Derrière Farm to Fork, c'était quoi? C'était de dire comment on peut convertir 25% des surfaces européennes en bio ou en organic food, pour parler européen. Et on voit bien les limites de cette politique. C'est comme les lois Egalim qui portaient aussi cette politique en disant il faut absolument pousser les agriculteurs français à se convertir en bio même si ça n'a pas de sens économique, parce que c'est dogmatique. Et donc ça, il faut absolument l'arrêter. Ça ne veut pas dire que demain, il ne faut pas réfléchir à une nouvelle agriculture plus durable, c'est le sujet, plus innovante. Mais pour autant, le bio fait partie de la solution, certes, là où c'est possible, mais n'est pas la solution. Donc, tout l'enjeu maintenant, ça va être de travailler avec l'Europe pour reconstruire ce programme Farm to Fork, pour lui donner un sens nouveau, pour lui donner un sens avec un angle souveraineté alimentaire pour l'Europe, essentiel, et pour le monde, et pour autant prendre en compte les enjeux aussi, en même temps, sociétaux, environnementaux, et imaginer une nouvelle agriculture possible. Et l'agriculture possible, c'est une agriculture diversifiée. Certes, le bio peut être une solution là où c'est possible. Alors, ça veut dire quoi, là où c'est possible? Là où le réchauffement climatique favorise effectivement le fait qu'on ait moins de traitements chimiques à faire, voire zéro traitement chimique, pour autant avec de la qualité, des rendements et des revenus pour l'agriculteur. Mais partout où on veut forcer le climat en disant finalement on va passer en bio, on aura des baisses de rendement de près de 30 à 40%. On deviendra importateur de produits encore conventionnels qui ne respecteront pas l'environnement dans certains pays du monde. Donc il faut redonner du sens à ce projet agricole européen. Voilà, et je compte sur les politiques pour se mobiliser dans cette direction. En tout cas, tous les acteurs économiques français, je pense, sont alignés avec cette position pour faire avancer les choses dans une nouvelle direction. Il y aura donc l'agriculture avant les crises Covid et russes et l'agriculture après.
En tout cas, c'est une sorte...
Il y a un signe intéressant, excusez-moi, c'est de voir à quel point un certain nombre d'États membres aujourd'hui déplorent le fait qu'on ait facilité l'entrée de produits agricoles et alimentaires ukrainiens avec des réductions de droits de douane et demande des compensations maintenant financières à la Commission européenne. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que même l'Union européenne, avec de bonnes intentions, est en train de créer des effets pervers qui vont concurrencer les producteurs européens. Il suffit de demander aux producteurs de volailles français, notamment avec l'augmentation de 140% des importations ukrainiennes de poulet.
En tout cas, on a bien compris cette opposition, finalement. Oui, parce que les uns et les autres arrivent un peu en contradiction. Avec, d'un côté, effectivement, c'est produire plus écologique. Et puis, la notion de souveraineté alimentaire qui, alors, je ne vais pas dire au bénéfice de la guerre d'Ukraine, Sébastien Abyss, mais en tout cas, c'est le grand retour de cette notion de souveraineté alimentaire. Et peut-être un commentaire sur, sur les tensions sur les marchés agricoles, les répercussions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Oui, en fait, il y a deux, dans votre question, il y a deux aspects. Il y a est-ce que finalement les chocs qui se combinent en ce moment sur la scène internationale, choc sanitaire, choc logistique, choc géopolitique, choc climatique, recentralisent les questions agricoles et alimentaires? Oui, incontestablement. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nous avions peut-être, nous, à tort, vu d'Europe et de France, eu tendance à oublier que les grands enjeux de sécurité et de développement humain se situaient autour de ces enjeux-là. Qu'une partie du monde qui émerge, réémerge ou progresse cherche à renforcer sa sécurité alimentaire et que les défis de produire pour plus de personnes avec moins d'impact sur les ressources fait partie des plus grandes équations de ce siècle. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le réarmement agricole du monde était nécessaire et que ceux qui l'ont fait les dernières années voit aujourd'hui l'Europe se reposer sans doute de bonnes questions sur la nécessité de participer à ce réarmement au sens positif du terme, parce que l'équation est immense. Mais à côté de cela, on redécouvre que la géographie est têtue. Et nous avons en effet au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des pays qui, au-delà des instabilités géopolitiques qui les caractérisent, des divisions aussi qui règnent dans cet espace du monde, ben, il n'y a pas d'eau. On se plaint du manque d'eau en France, mais il y a des pays à 2-3 heures d'avion de la France où le manque d'eau est une réalité structurelle de janvier à décembre. Il n'y a pas beaucoup de terres et les terres aptes à l'activité agricole sont déjà exploitées. Les changements climatiques sont plus violents qu'ici et nous avons des conditions de production agricole qui sont extrêmement, extrêmement contraintes. Et donc ces pays qui dépendent en grande partie des approvisionnements internationaux pour leur sécurité alimentaire, ben, évidemment, sont encore plus que jamais fragilisés par ce contexte international dont on a décrit les tendances précédemment. Une partie du blé que l'Égypte, que la Tunisie, que le Liban, que l'Irak a davantage acheté ces dernières années c'est du blé qui provenait de la mer Noire, de Russie ou d'Ukraine. Et même si la France, en effet, reste un acteur important pour fournir du blé au Maghreb, en Égypte, et parfois aussi sur les destinations moyen-orientales, ce sont sur des volumes à peu près équivalents. Ça n'a pas doublé, triplé au cours de 15-20 ans, alors que ces pays ont doublé, triplé leurs importations. Et en fait, mécaniquement, leur volume croissant d'importation est venu de mer Noire. Et si Thierry Blandinière tout à l'heure évoquait le prix, le juste prix aujourd'hui entre producteurs, acheteurs de blé, un prix du blé à 250, 300, 350 euros la tonne, c'est géopolitiquement et économiquement très peu soutenable pour des pays du sud de la Méditerranée dont les situations sont pas bonnes. Je pense en particulier à un pays dont on devrait parler beaucoup plus, qui est la Tunisie, qui depuis 10 ans fait une tentative de démocratisation qui est aujourd'hui en train de partir à l'envers et dont l'économie est absolument catastrophique. Je rappelle qu'il y a des lignes de crédit aujourd'hui attendues de l'aide internationale pour la Tunisie, notamment par la Banque européenne d'investissement ou la BERD, qui vont permettre à la Tunisie d'acheter du blé avec ses soutiens financiers, et elle achètera du blé russe. Et donc on voit bien que nos géographies de sanctions et de rivalité de puissance s'affranchissent parfois sur le sujet céréalier. C'est des aides européennes, indirectement, qui vont permettre à la Tunisie d'acheter du blé russe demain.
Commentaire Thierry Pouche, et après ça je vais revenir sur la Russie, parce qu'on approche de la fin de cette émission. Vous écrivez « La capacité à peser sur les affaires du monde rime dorénavant avec la capacité de produire ». La Russie a été la première à le comprendre.
Après avoir passé toute une décennie de chute de la production et de statut d'importatrice nette, durant cette décennie 90, à partir de 2000, le président Poutine fait de son agriculture un levier de sa puissance et du redressement de l'économie nationale, en partie avec les produits énergétiques. Et on voit bien que progressivement, à travers des outils adaptés de politique agricole, plus le rebond dont il a saisi l'opportunité avec l'annexion de la Crimée et les sanctions qui lui ont été infligées, c'est devenu une grande puissance. Donc, dans toute la problématique aujourd'hui qui consiste à restaurer la notion de souveraineté, voilà un bel exemple d'utilisation et d'application de la souveraineté nationale au point de faire un acteur de premier plan sur la scène agricole internationale et de dicter d'une certaine façon les comportements pour des pays importateurs. Vous l'avez souligné tout à l'heure, à l'ONU, on a bien vu tout au long de l'année 2022 les évolutions en matière de vote aux assemblées générales sur l'abstention vis-à-vis des sanctions occidentales envers la Russie.
Et on l'a compris, Thierry Blandinière, finalement, on voit la Russie avoir une politique très coercitive. On a parlé des pressions diplomatiques et économiques sur des pays qui sont tentés de s'approvisionner depuis des pays occidentaux, toujours en termes de céréales.
Oui, nous devons absolument réexister dans des pays comme le continent africain. Alors comment réexister, c'est comment apporter notre savoir-faire agronomique à l'agriculture dans ces pays. Il y a des pays qui pourraient être exportateurs de céréales, des pays africains, vers d'autres pays africains. Si on prend l'Éthiopie, tous ces hauts plateaux, il y a un potentiel aussi de production considérable. Et donc on travaille beaucoup sur les organisations amont pour relocaliser par exemple la production d'orge pour des malteries. Donc tout ça, ce sont des petits cours d'eau, mais on voit que quelque part la France a son mot à dire et on est en capacité de pouvoir influer indirectement sur la politique de ces pays, même si c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers que les Russes ou les Chinois, qui sont très présents dans ces pays africains.
Merci Thierry Blandinière. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Invivo, qui est le premier opérateur sur la collecte et le commerce de grains en Europe. Sébastien Abyss, qui était avec nous par téléphone, directeur du Club Déméter et chercheur associé à l'IRIS, directeur du rapport Déméter et auteur d'une géopolitique du blé aux éditions Armand Collin, et Thierry Pouche, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et membre de l'Académie d'Agriculture. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Raphaël Pouxva et Nathalie Laporte. À samedi prochain.